Pour cette communication, nous avons choisi le mode duo. C'est un risque que nous prenons, ce sera à vous de nous dire si nous avons bien fait ou pas. Duo parce que d'abord nous représentons deux institutions, comme vous le savez déjà, l'UPMC donc, et puis Strasbourg pour moi. Deux disciplines différentes puisque didactique des langues et moi sciences d'éducation, bien que dans ma jeunesse j'ai également été didacticienne des langues ou plutôt linguiste appliquée puisque la didactique n'existait pas à cette époque. Aussi deux générations qui est dans le duo et puis c'est important pour Létis et puis un homme une femme parce que nous sommes tous les deux très attachés à la parité aussi et nous pensons que c'est important. Donc deux regards croisés sur deux expériences et sur cet objet TIS et enseignement des langues. Alors on va tout de suite expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme LANSAD parce que c'est un petit peu bizarre et LANSAD a été créé par Michel Perrin dans les années 80 parce que nous avions l'habitude de dire les langues pour les non spécialistes, ça voulait dire pour des gens qui ne font pas de langue. Or ces gens qui ne faisaient pas de langue étaient spécialistes d'autres disciplines bien sûr puisque c'était tous les autres sauf ceux qui vont devenir professeurs de langue ou linguistes, et donc là LANSAD veut dire langue pour spécialistes d'autres disciplines, donc c'est un sigle que nous allons utiliser beaucoup, c'est pour ça que nous voulions l'expliquer d'abord. Alors, le contexte, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons pensé qu'il était utile de rappeler le contexte social dans lequel se situe l'apprentissage des langues en France. Parce que l'école est toujours l'école d'une société et l'enseignement des langues à l'école, de la maternelle à l'université, est forcément prise dans un contexte plus global de la place des langues dans la société. Alors, je n'aurai pas la cruauté de rappeler à quel point les Français sont mauvais en langue, parce que je crois que tout le monde l'a intériorisé, tout le monde le sait, ou tout le monde le dit, ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais enfin, toutes les enquêtes de type PISA, OCDE, dans les classements montrent que nous ne sommes vraiment pas bons. Et c'est vrai que nous pouvons constater le décalage qu'il peut y avoir entre les discours qu'on tient sur la nécessité de l'ouverture aux langues des cultures étrangères et puis les difficultés de mettre en place des enseignements aussi bien en primaire qu'en secondaire et qu'à l'université qui puissent être efficaces. Alors à ce propos, je voulais citer un rapport que vous connaissez certainement, qui est le rapport qui a été rédigé sous la houlette de Madame Suzy Halimi et qui s'appelle « Apprendre les langues » ou « Apprendre le monde », je crois, quelque chose comme ça, qui est paru en janvier 2012. Oui, c'est ça, « Apprendre les langues, apprendre le monde », rapport du comité stratégique des langues. Et ce que j'ai trouvé intéressant et à la fois étonnant, c'est que dans ce rapport, dans la recommandation 1, on a envisagé une campagne de sensibilisation du grand public, donc sensibilisation à l'apprentissage des langues, c'est quand même 21e siècle, 2013, bon d'accord, faire de l'apprentissage des langues un sujet de société actuelle, ce qui est aussi intéressant, et la citation que vous avez sur la diapo, là, faire passer un message positif, les Français sont tout à fait capables de parler plusieurs langues. Et ça, j'ai quand même trouvé ça extraordinaire. Je n'ai jamais vu un rapport où on disait que les Français étaient capables d'utiliser un iPhone ou un outil informatique, mais de souligner qu'ils sont capables d'apprendre des langues, il faut rassurer. Et je pense que là, nous sommes vraiment au cœur de ces représentations que nous pouvons avoir sur les langues étrangères. Et pour terminer, je dirais simplement que dans les médias, nous voyons bien aussi que les langues étrangères sont peu représentées. On a beaucoup d'émissions doublées, peu de sous-titrage, etc. Donc il y a quand même quelque chose aussi, je crois, un ressort assez puissant qui donne ce cadre à l'apprentissage des langues. Alors, il y a aussi, dans les rapports récents, on a aussi le rapport LEDEO, hein, qui est paru en janvier 2013, où là, ce n'est pas les langues qui sont concernées, mais c'est aussi l'idée d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, hein, où il parle d'enseignement 2.0, hein, par analogie avec le web 2.0. Il parle d'apprentissage toute la vie, tout au long de la vie, de potentiel des TIS pour rénover l'enseignement et l'éducation. Alors, dans ce contexte-là, je donne la parole à Cédric, qui lui va plus insister sur le contexte de l'université et des LANSAD dans l'université, qui est dans cette toile de fond que je viens d'évoquer rapidement.
Voilà, et parmi les points que je pourrais ajouter à ce que tu viens de dire, c'est qu'on est dans un contexte de massification de l'enseignement apprentissage au sens large. Et donc, quand, sur la toile de fond qui vient d'être dressée, donc, le secteur Lansad sans que là-dedans, et on peut dire que certaines études, comme celle de Faïs 2013 par exemple, montrent que le secteur Lansad au sens large a un statut qui est plutôt mal défini et qui est très variable. Doit-on externaliser l'offre de formation à des prestataires privés? Qui doit s'occuper de ça? Est-ce que des centres de ressources en langue doivent être conçus? Il y a pas mal de questions qui se posent quant à la gestion de cet enseignement-apprentissage.
Il y a des présidents d'université, par exemple, qui disent que ce n'est plus l'affaire de l'université de faire des langues, en particulier de l'anglais. C'est une position.
Voilà, exactement. Et donc, parmi ces problèmes un petit peu de gestion des enseignements de langue, on peut, bien sûr, étant donné le panorama qui vient d'être dressé, de noter donc comment satisfaire la demande étudiante qui n'a cessé de croître, donc au sens large, mais aussi du point de vue de l'enseignement-apprentissage des langues. Comment gérer l'hétérogénéité des apprenants, qui est particulièrement prégnante dans le secteur Lansad, ce qui n'est pas non plus une nouveauté. Et puis également d'autres problèmes liés éventuellement à la certification en langue étrangère. Un certain nombre d'études montrent notamment un décalage entre le niveau attendu des étudiants et le niveau escompté réel sur le terrain. Les statistiques, par exemple, du CLES ou d'autres études, je me suis vaniteusement autocité, montrent que le niveau, en général, est plutôt celui de B1, y compris pour des cohortes importantes d'apprenants de niveau Master 2, alors même qu'un lycéen de fin de terminale pour les sections générales et technologiques est censé déjà obtenir avoir un niveau B2. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Il y a aussi la mobilité qui est maintenant aussi un acteur puissant d'inciter les étudiants à la mobilité, non seulement pour leurs études, mais aussi pour éventuellement l'insertion professionnelle par la suite.
Voilà. Donc, dans tout ce contexte un petit peu global, on peut s'interroger par rapport au développement impressionnant des TIS, des technologies de l'information et de la communication, qui a eu lieu au cours des dernières années, et donc leur potentiel pour essayer d'apporter des solutions par rapport à toutes ces questions. Mais bien sûr, si cette entrée peut être considérée pour faciliter donc l'organisation d'une offre de formation qui serait adaptée aux particularités d'un public qui serait plus hétérogène, pour aussi élargir le cercle des bénéficiaires, donc pour répondre à la demande croissante des étudiants, etc., il convient quand même de préciser que les TIS sont des outils qu'on met à la disposition des étudiants, ce ne sont pas des un coup de baguette magique. Et parallèlement à cela, on peut s'interroger donc sur les démarches qui sous-tendent à la mise en place de ces outils, notamment les démarches d'ingénierie pédagogique et d'ingénierie de la formation, qui sont elles-mêmes liées à des considérations épistémologiques pour atteindre un but, à savoir dans le secteur Lansad, qui est celui de essayer de tendre vers de l'acquisition en langue étrangère. Voilà. Donc, dans cette perspective, on s'est interrogé et on va essayer dans cette communication, donc à la lumière de deux exemples de dispositifs médiatisés, de discuter ces questions, de nourrir un peu la réflexion. Et donc, tout d'abord, on situera le cadre théorique auquel on se rattache. Ensuite, on vous proposera donc une description croisée de deux parcours expérimentaux que nous vous présenterons. Cet effort parallèle sera fait par le biais de blocs thématiques que nous avons arbitrairement arrêtés. Et enfin, on dressera un bilan quant au fonctionnement de ces parcours pour en discuter, donc les processus.
C'est plus des dispositifs que des parcours, non ?
Des dispositifs, des artefacts pédagogiques, exactement. Donc, pour en discuter les limites, le potentiel, et essayer d'ouvrir donc aussi un échange avec nos interlocuteurs lointains, mais aussi dans la salle, pour avoir une discussion un peu critique. Donc je crois que c'est moi qui continue.
Ouais.
Le point de départ, c'est que si la finalité d'un dispositif d'enseignement-apprentissage des langues est bien de favoriser autant que possible, bien sûr, la mise en œuvre d'expériences d'apprentissage qui seraient potentiellement favorables à l'apprentissage, à l'acquisition d'une langue étrangère, l'intégration des TIS au sein d'un artefact pédagogique est quelque chose qui se réfléchit. L'intégration des TIS dans un dispositif, bien sûr, permet de décloisonner ce qui avait encore, ce qui était encore en vigueur il n'y a pas si longtemps que ça dans la classe, donc pour ouvrir cet espace sur un espace virtuel annexe dans lequel des pratiques d'enseignement-apprentissage peuvent également avoir lieu. Et donc, par effet de cascade, par effet domino, l'ancrage dans cet espace pédagogique qui est annexe et que l'enseignant doit également il doit gérer, tout cela ouvre, donne de la souplesse et ouvre une marge de manœuvre qui est plus importante pour organiser un dispositif que ce qui peut se faire en seul présentiel. Voilà, parce que les TIS permettent de donner accès à divers canaux, le texte, le son, divers modes de travail, travail en synchrone, en asynchrone, diverses modalités également de travail, travail collaboratif, individuel. Et donc, au final, on atteint un degré de souplesse qui est assez large, beaucoup d'extensibilité. Et donc, un enseignant donné, dans un contexte pédagogique, s'il utilise les TIS, il permet de composer voilà, avec beaucoup de paramètres. Et voilà, donc on a prévu un petit tableau avec des exemples possibles d'artefacts pédagogiques qui peuvent être mis en place en ayant recours aux TIS. Donc on part de dispositifs en seul présentiel qui peuvent ensuite passer en présentiel enrichi et qui peuvent aller jusqu'à de l'autonomie complète. Les petites croix qui sont avec des parenthèses autour indiquent des modalités qui peuvent ou non être choisies, ce qui veut dire qu'au sein même de chaque configuration, il y a encore de la souplesse. Bien sûr, ce tableau n'est pas exhaustif, c'est juste une liste qu'on a arrêtée. Et on voit que le cours en présentiel, cours entre guillemets, peut être basculé complètement à distance dans ce qu'on appelle des classes à distance. Ce sont des pratiques qui, par exemple, ont lieu depuis de nombreuses années dans l'Outback en Australie, par exemple, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle, par exemple, School of the Air, qui permet à des étudiants donc, de suivre une scolarité normale dans des endroits reculés où il n'y a pas spécialement de modalités pédagogiques prévues pour eux.
Alors dans ce tableau, moi je voudrais soulever quelques points critiques, en particulier sur les appellations. Nous sommes encore très maladroits, me semble-t-il, sur les présentiels, présentiels enrichis, présentiels améliorés. Je pense qu'il y a des présentiels qui ne peuvent jamais être améliorés. Et puis aussi autonomie guidée et autonomie complète. Ça, ce sont des termes qu'on a utilisés justement au début, dans les années 80, quand on a commencé à penser qu'on pouvait faire travailler les étudiants sans professeur. C'était quand même assez nouveau. Et cette idée d'autonomie guidée, on voit bien qu'on a envie quand même de garder justement un cadre, un guidage. Or, maintenant, je crois qu'il faut vraiment, il me semble, mais je vous donnerai aussi une référence montre que je ne suis pas toute seule à le penser, que l'autonomie, c'est un concept philosophique. Hein. L'autonomie, c'est la capacité à se développer, hein. L'aptitude à se gouverner. En fait, on est dans l'émancipation du sujet, qui est un processus qui dure toute la vie. Et en aucun cas, on ne peut-être nommer un dispositif avec ce terme d'autonomie. Et nous avions le congrès de Ranaclès, c'est Rassemblement National des Centres de Langue de l'Enseignement Supérieur à Reims au mois de novembre, et là je participais à une table ronde où on a abordé ce sujet, et aussi bien Michel Perrin qui avait été à l'origine de ces appellations que David Little qui a beaucoup travaillé à l'université de Dublin sur justement le concept d'autonomie, on pense qu'il est vraiment maintenant urgent de ne plus nommer des dispositifs en autonomie semi-guidée, guidée, complète. Et avec en plus une petite connotation économique, c'est que pour les décideurs et les payeurs, quand on dit autonomie, en général, c'est pas de prof, donc pas d'argent. Et ça, c'est dangereux. Hein. C'est une dérive aussi qui peut être dangereuse. Donc le mot autonomie, moi, je voudrais peut-être le garder pour ce que ça représente dans le développement humain, hein, dans l'émancipation des personnes, plutôt que dans des dispositifs. Et l'autre mot que moi, je discute aussi, que nous avons discuté ensemble, c'est le mot tuteur, parce que là aussi, c'est un peu la même chose. Tuteur, c'est dévalorisant par rapport à enseignant. Hein. Donc, on a le tuteur à distance, par exemple, qu'on a beaucoup utilisé, mais ça veut dire qu'on recrute des gens qu'on sous-paye aussi ou qu'on paye moins. Il faut être clair là-dessus. Et il me semble que, justement, enseignant, être tuteur, qui peut être une fonction qu'on peut préciser, hein, être tuteur, c'est une fonction du métier d'enseignant. À un moment donné, le métier d'enseignant qui est en pleine aussi restructuration, redéfinition, évolution, on peut dire à un moment, on a des fonctions de tuteur, mais en aucun cas choisir tuteur ou enseignant, parce que c'est arbitraire. Et là aussi, souvent, moi je vois souvent des annonces, cherche tuteur pour enseignement de langue à distance. Qualification, on ne sait pas trop. Paye, on ne sait pas trop non plus. Donc voilà, j'appelle à la prudence sur ces dénominations.
Voilà, donc.
Mais on l'a laissé justement pour pouvoir en discuter.
Ok, donc comme on peut le voir dans ce tableau, donc, la marge de manœuvre dont un enseignant peut potentiellement bénéficier pour mettre en place, concevoir un dispositif est large. Et donc à ce titre, on peut se demander si elle ne mériterait pas également d'être interrogée, parce que bien sûr, il ne saurait être question quelque part d'arrêter des choix de façon arbitraire ou de proposer des artefacts pédagogiques qui seraient contre-productifs ou même de chercher à déterminer par quel procédé et par quel moyen conduire les apprenants vers davantage d'acquisition d'après des conceptions, des croyances. Et donc, on est parti sur un ancrage un petit peu épistémologique, puisque, voilà, comme Jean-Paul Narcicombe le rappelle, il est de la responsabilité de l'enseignant de se constituer un savoir à une pratique instruite qui lui permette d'éviter les erreurs qui peuvent l'être, et donc d'évoluer au travers de pratiques pédagogiques responsables. Et pour nous, cela est d'autant plus prégnant que, parallèlement à cela, on peut rappeler qu'en France, à l'heure actuelle, il n'existe pas de formation LANSAD dédiée pour les enseignants, alors même que le public LANSAD, du point de vue de l'enseignement-apprentissage des langues, constitue, en termes de statistiques, de la population la plus importante, la plus nombreuse. Donc
l'idée, c'est que les enseignants qui se lancent dans ces dispositifs aient une attitude réflexive, un autocontrôle, pour pouvoir savoir sur quel fondement théorique et méthodologique on fonde les dispositifs, hein, et puis comment ensuite on peut vérifier l'adéquation entre les buts poursuivis, le dispositif mis en place et les modalités d'utilisation et les résultats, bien sûr, d'apprentissage et de formation.
Voilà. Donc, du point de vue de cet autocontrôle, un point de départ pourrait être de partir précisément du dispositif en question qui, comme on le voit ici, la figure qui est sur la diapositive peut s'appliquer dans un grand nombre, je pense, de secteurs LANSAD. Et on voit donc que les paramètres qui composent ce terrain sont nombreux, qu'ils obéissent à des logiques différentes, qui sont parfois contradictoires. Et on voit donc qu'avant même la mise en place d'un dispositif donné, il y a quand même de fortes contraintes qu'il s'agit de prendre en considération en amont. Voilà. Et donc un des pôles qui nous paraît intéressant dans cette figure, c'est la figure de l'étudiant, donc de l'apprenant, un terme plutôt cognitif. Je crois que tu voulais dire un mot à ce propos.
C'est-à-dire que ce qu'on avait discuté là, c'est que finalement on s'est rendu compte en comparant nos dispositifs et en échangeant que ce qui est déterminant pour nous dans l'apprentissage, justement, c'est l'interaction. C'est l'interaction. Alors, je ne vais pas non plus rappeler longuement les théories de Piaget, Vygotsky, Brunner, Leontief, tous ces gens qui ont apporté et porté et démontré cette idée que apprendre, c'est interagir avec son environnement. Dans l'environnement où il y a des objets, des artefacts, mais des personnes, les pairs, les enseignants, enfin tout ce qui peut constituer un environnement. Et alors, apprendre, enseigner, c'est un couple indissociable, bien sûr, mais nos systèmes éducatifs ont beaucoup privilégié enseigner. Et peut-être que, pas seulement à cause des nouvelles technologies, elles vont certainement favoriser ce changement de paradigme, on est davantage sur apprendre que sur enseigner, parce que apprendre, c'est vital. J'aime bien rappeler aussi que nous sommes nés pour apprendre, condamnés à apprendre, c'est une question de survie, et ce sont des universaux, les processus d'apprentissage, ce sont les fondements de l'activité humaine, et nous sommes vraiment là dans l'activité humaine. C'est une construction individuelle, apprendre, ça aussi, ça a été démontré, c'est un processus dynamique. Et alors, bien sûr, quand on parle des langues, apprendre une langue, c'est évidemment interagir dans des situations d'interlocution qui deviennent absolument essentielles. Et la façon dont on les conçoit, dont on les propose, dont on les organise, va être déterminante pour le locuteur qui a un besoin, une intention de communication, qui s'engage dans une démarche pragmatique pour s'exprimer dans différentes situations. Et donc c'est ça qui est au cœur des dispositifs que nous avons essayé de concevoir.
Voilà, et donc dans cette perspective, le dispositif est bien sûr un outil qui est mis à la disposition de l'apprenant pour valider des objectifs. Et donc nous, tous les pôles qui constituent cette figure constituent donc des circonstances organisantes qui jouent entre elles, qui s'auto-régulent et qui permettent de faire émerger donc des hasards, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas prévoir, et donc qui engagent des déterminismes réciproques de l'acte d'apprendre, pour citer ces mêmes auteurs. Et donc, c'est une conception qui va à l'encontre d'une conception préconçue, en fait, de l'apprentissage, qui nécessite des ajustements au fur et à mesure que des choses émergent du terrain. Et c'est la raison pour laquelle un point de départ qu'on a considéré serait de partir de l'apprenant lui-même.
Et aussi parce que on s'est rendu compte, alors là on citait les travaux de Nicole Tremblay au Québec, qui a travaillé sur les autodidactes et qui a montré comment justement les autodidactes travaillaient, apprenaient dans cette interaction avec l'environnement, et que contrairement à tout ce qu'un enseignant normalement constitué peut croire, c'est-à-dire qu'une séquence pédagogique, ça se prépare avec un objectif, des supports choisis, des activités, les autodidactes font feu de tout bois et ils saisissent justement dans les circonstances. Alors, circonstances organisantes, c'est pas terrible en français, c'est organizing circumstances en anglais. C'est le fait que l'environnement nous donne des occasions, et on l'a vu, nous, on l'a vu dans des études qu'on a faites sur nos centres à Strasbourg, on voit bien que les étudiants, ils travaillent pas du tout de façon ordonnée, méthodique et progressive, ils prennent ce qu'ils peuvent, ils saisissent les occasions, les rencontres pour travailler la langue. Et c'est d'autant plus renforcé avec les réseaux sociaux, bien sûr, les apprentissages informels auxquels on reviendra tout à l'heure. Donc ces circonstances organisantes, elles sont à la fois importantes pour les enseignants qui, dans les dispositifs, peuvent prévoir, si on peut prévoir le hasard, mais prévoir des espaces dans lesquels on peut ensuite trouver des circonstances organisantes, et elles sont à la fois du côté des apprenants qui s'en servent pour travailler.
Alors, un des hasards qu'on peut anticiper, c'est le fonctionnement des individus en situation d'apprentissage au sens large, mais aussi dans le cadre d'apprentissage des langues étrangères. Et c'est la raison pour laquelle on est parti sur un ancrage psycholinguistique, puisque des travaux ont montré que on a tous et toutes des propriétés cognitives qui jouent un rôle clé dans la réussite ou non d'un apprentissage, y compris d'une langue étrangère. Alors, par exemple, l'aptitude langagière, le type d'intelligence, le style cognitif des apprenants, etc. Et que tous ces paramètres constituent des différences individuelles qui revêtent un caractère injuste, qui mettent en exergue notamment les problèmes d'hétérogénéité qu'on peut rencontrer ensuite sur les terrains, et qui permettent aussi d'expliquer pourquoi des apprenants progressent assez vite pendant que d'autres stagnent ou même régressent, je ne sais pas. Voilà. Et donc, un positionnement pourrait partir de ces travaux en psycholinguistique pour prendre en compte le fonctionnement de l'apprenant en situation d'apprentissage d'une langue étrangère, pour lui proposer des artefacts pédagogiques qui vont dans le sens de ces travaux, et donc, toujours dans cette optique, une réflexion sur une approche pédagogique qui intégrerait autant que possible, dans la mesure du possible, en fonction des circonstances organisantes du contexte d'appui, les résultats de ces travaux en acquisition seraient fondamentaux pour, dans le cadre de la mise en place d'activités pédagogiques. Voilà, donc parmi les entrées possibles qu'on peut considérer pour faire cela, donc on peut bien sûr penser au potentiel que les TIS pourraient apporter, parce qu'elles permettent, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre du tableau, une diversification des modalités de travail, un input optimisé, plus de contact avec la langue étrangère, également prévoir des espaces de travail qui favoriseraient la mise en place de situations réelles d'interaction en langue étrangère. On a parlé tout à l'heure des bienfaits de l'interaction. Également, on pourrait envisager du travail individuel dans une optique plus axée cognition, avec des pratiques d'entraînement, d'apprentissage, du travail plus fin, individualisé. Et également, un point qu'on a évoqué tout à l'heure, la question du suivi, du guidage, que ce soit en présentiel, à distance, par le biais d'une forme de tutorat, toujours avec les guillemets, d'accompagnement, etc. Voilà.
Voilà. Alors là, nous passons à la deuxième partie, puisque nous avons essayé de poser les ancrages théoriques et épistémologiques pour décrire de façon concrète les deux dispositifs que nous expérimentons. Alors, un qui est vieux et l'autre qui est récent. Et on peut comparer, effectivement, voir aussi les questions qui se posent et les chemins qui sont parcourus. Alors, les langues en CRL, CRL, ça veut dire Centre de ressources de langue, à l'UDS, Université de Strasbourg. Parce qu'il se trouve que le dispositif auquel je fais référence est un dispositif qui a été créé à l'intérieur de l'Université Louis Pasteur en 20 ans, puisqu'il a commencé même en 1991, donc ça fait déjà presque plus de 20 ans. Et à l'époque, cette université est une université scientifique, mais vous savez que nous avons fusionné en 2009, et depuis 2009, la structure ancienne est restée en l'état, puisque nous sommes censés restructurer les langues sur les trois universités, et c'est extrêmement difficile. Si vous voulez, je pourrais vous raconter pourquoi, mais hors micro. Enfin, pourquoi, c'est les hypothèses que je fais, parce que c'est très compliqué. Donc là, je fais référence à cette organisation qui était propre à l'université Louis Pasteur. Donc nous avons, pour être très pragmatique, 7 centres de ressources de langue répartis sur le campus, qui sont coordonnés entre eux. Répartis sur le campus parce que nous avons fait le choix, et ça c'est un bon choix, je le reconnais, de ne pas faire une grosse structure type maison des langues, mais d'avoir des centre à proximité des étudiants, donc dans les différentes facultés ou par regroupement géographique aussi, pour que les étudiants puissent aller faire des langues aussitôt qu'ils ont 5 minutes de libre, ce qu'ils font bien sûr, vous pouvez l'imaginer. Dans la politique de l'université, il y a une langue obligatoire dans les 6 semestres de la licence. Donc c'est une politique assez volontariste, avec aussi au semestre 3 et au semestre 6, des langues qui sont des enseignements disciplinaires en langue étrangère, c'est-à-dire qui sont prises en charge par les facultés et les UFR. Et les étudiants peuvent travailler les langues avec les profs de langue, mais c'est vraiment des cours en anglais ou en allemand. Parce qu'à Strasbourg, on travaille quand même anglais, allemand, prioritairement, et français, langue étrangère. En lien avec la discipline de spécialité, je viens de le dire, mais aussi parce que les modules sont en général construits avec les responsables pédagogiques, et puis aussi en lien avec les activités sociales externes, parce que ce qui est plus récent, bien sûr, je montrerai après rapidement comment nous avons évolué en 20 ans, avec 3 photos, vous verrez, c'est assez expéditif. L'idée, c'est que les étudiants, bien sûr, dans la façon dont ils ont été élevés, pense qu'on fait des langues 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine dans l'université. Et notre travail consiste à dire les langues et les cultures étrangères, c'est tout le temps, partout. Hein. Saisissons les occasions de le faire. Et comme ils ont des feuilles de suivi que je vous montrerai, enfin je vous expliquerai rapidement tout à l'heure, on leur propose de mettre sur leur feuille de suivi toutes les activités qu'ils font en dehors justement de l'université, c'est-à-dire ce qui est culturel, ce qui est communication, échange, etc., pour essayer de tisser vraiment des liens entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui pour les langues paraît du simple bon sens. Voilà, donc ça c'est pour Strasbourg, en gros quelques caractéristiques, on y reviendra. Maintenant pour l'UPMC.
Voilà, donc quelques caractéristiques générales concernant l'université Pierre et Marie Curie, donc qui est une université dont l'offre de formation est en lien avec les domaines des sciences, des technologies et de la santé. Du point de vue de la licence première année, je vais uniquement me concentrer sur ce niveau parce que c'est celui sur lequel mon dispositif porte. On observe plusieurs problèmes de terrain, comme on l'a dit tout à l'heure, des problèmes d'hétérogénéité qui sont flagrants. Il y a des gros problèmes de décalage entre le niveau présumé et le niveau réel des apprenants. Et on observe également des problèmes d'abandon au cours de parcours, soit au cours de la première année, soit des étudiants qui ne vont pas suivre la licence deuxième année, qui arrêtent donc en cours de route. Et ce taux d'abandon tourne autour de 30% des effectifs, donc un tiers. Et du point de vue des objectifs fixés pour ces étudiants à l'UPMC, le niveau, en termes de cadre européen, est situé à B1 dans toutes les compétences de la langue.
Alors, les orientations pédagogiques, nous avons choisi une approche centrée sur la personne, hein, qui donc est fondée sur tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur nos référents théoriques, qui essaie de prendre en compte les rythmes d'apprentissage, les styles, les étudiants, leur personnalité, leur goût, enfin tout ce qui peut être caractéristique d'une personne. Et une approche qu'on appelle constructiviste, puisque l'apprentissage est une construction individuelle, qui responsabilise l'apprenant, ou... Je le définis comme ça, il est à la fois acteur de son apprentissage, c'est-à-dire c'est lui qui choisit ses supports, le temps de travail, avec qui veut travailler, comment, etc. Donc il a une grande latitude de choix. Mais je me méfie du côté acteur parce qu'on peut agir sous l'injonction de quelqu'un et ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on est forcément en train de développer son autonomie. Et l'idée qu'il est aussi auteur de son apprentissage, c'est-à-dire qu'il le produit parce qu'en même temps qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait, de comment il fait, avec tous les courants de apprendre à apprendre, métacognition, l'apprentissage tout au long de la vie, etc.
Voilà, donc ici on est sur une approche vraiment individualisation des parcours, ce qui n'est pas le cas du point de vue de l'UPMC où des choix politiques de gestion du département ont été arrêtés et où le grain était un petit peu plus large, où la démarche a été plutôt d'essayer de proposer en tout cas des modalités de travail différentes et mieux adaptées aux besoins des étudiants en les répartissant par groupe de niveau, une pratique qui est assez courante.
Et que nous avons abandonné.
D'accord. Voilà. Et donc, on regroupe les étudiants par le biais d'un test de positionnement qui, dans notre cas, ne teste donc les apprenants que sur deux compétences, des compétences de compréhension, ce qui nous permet malgré tout quand même de dégager des profils qui sont à peu près homogènes. Donc, des étudiants avec des difficultés, les moins avancés donc en langue étrangère, des apprenants avec un... qui sont avancés, qui peuvent assez rapidement passer en tout cas une certification niveau B1, et puis des apprenants intermédiaires, c'est-à-dire des apprenants qui disposent d'un bagage qu'ils ont acquis au cours de leur scolarité, notamment dans le secondaire, et qui ne paraissent pas toujours savoir réutiliser ces acquis, et donc pour lesquels des choses peuvent être mises en place. Et c'est dans cette perspective que je me suis investi, donc que j'ai essayé de travailler sur la mise en place d'un parcours expérimental en autonomie guidée, avec les réserves que nous admettons par rapport à cette appellation, voilà, qui permet en fait aussi d'intégrer trois des logiques qu'on a évoquées précédemment au niveau des entrées à considérer, à savoir l'utilisation des TIS dans un univers multipolaire, qui permet de faire du travail en auto-apprentissage en ligne, du travail individuel, et qui permet également l'insertion de modalités, l'insertion de suivi à distance par le biais d'un tuteur humain.
Quand je dis qu'on a supprimé les groupes de niveau, les étudiants qui sont ici, il y a toujours des fous de l'évaluation, ils peuvent s'auto-évaluer, passer les tests qu'ils veulent dans les centres. Mais on ne fonctionne pas, si vous voulez, on n'organise pas, on ne répartit pas les étudiants sur des critères de niveau. C'est à eux de voir s'ils veulent s'évaluer ou pas. Eux, ils ont leurs examens, leurs évaluations finales. Alors là aussi, c'est un petit schéma qui montre que nous insistons beaucoup sur les processus d'apprentissage, c'est-à-dire sur le rapport entre l'étudiant apprenant et le savoir. Hein, c'est ça qu'on privilégie dans les dispositifs que nous avons montés. L'enseignant a des stratégies d'enseignement, bien sûr, mais il est garant de l'organisation, des ressources, du système dans son fonctionnement global. Et son rôle est plutôt un rôle de médiation entre l'enseignant et l'apprenant. Alors, on disait tout à l'heure individualisation, mais surtout, l'individualisation, c'est forcément l'individualisation des personnes, mais en groupe, en interaction avec les autres. On n'apprend pas seul, on n'apprend jamais seul, on apprend toujours avec les autres. Et parfois, quand on dit individu, individualisation, on pourrait croire que c'est un peu solitaire. Voilà. Alors, voilà. Et donc là, il y a une inscription dans le groupe classe, dans l'institution et dans la société de chaque apprenant dans son parcours.
Alors voilà, moi justement, le problème qui se pose dans le parcours que je vous présenterai tout à l'heure, c'est justement la mise en place de ces situations d'interaction qu'on a essayé de contourner, puisqu'on n'a pas pu les mettre en place. Donc voici une présentation un petit peu un visuel des parcours, tels qu'ils figurent en tout cas sur nos sites respectifs. Donc à gauche, c'est mon parcours, bien sûr, qui prend la forme d'un site web qui est sécurisé. Vous voyez qu'il y a un forum qui a été proposé également pour proposer de la médiation à distance, mais aussi une circulation de la parole de façon aussi bien horizontale que verticale, donc des échanges entre apprenants, prof-apprenants dans un rapport plus étroit. Vous voyez aussi qu'il y a des scénarios, donc bon là c'est une capture d'écran, c'est pas dynamique, mais en tout cas il y a des scénarios qui sont cohérents en termes de thématiques et qui ont trait d'ailleurs à des thématiques liées au domaine des sciences au sens large, puisque ce sont les disciplines de prédilection de nos étudiants, et qui permettent aux étudiants de s'entraîner sur les quatre compétences, y compris de production.
Voilà. Pour le site des CRL de Strasbourg, j'ai mis l'adresse sur la dernière diapo et vous pouvez aller voir parce que là, c'est ouvert à tout le monde alors que toi, c'est pas, voilà. C'est sur code.
Alors, le mien, effectivement, nécessite des logins et des mots de passe.
Parce qu'il y avait trop de passagers clandestins.
Voilà, pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Voilà.
Voilà, alors l'accompagnement des étudiants dans ce type de dispositif, donc je crois que vous l'avez bien compris maintenant, c'est le parcours est construit par l'étudiant, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui qui cherche, c'est lui qui travaille. Je milite pour la libération des enseignants, je trouve qu'ils travaillent trop en général et qu'en fait il faut faire travailler les étudiants aussi plus. Il y a cet accompagnement par les enseignants, on veut dire qu'ils ont un rôle un peu différent dans la mesure où ils sont là, et c'est notre spécialité, je crois, à Strasbourg par rapport à bien d'autres lieux. Les centres de ressources de langue ne sont pas là à côté de cours, il n'y a plus de cours de langue, il n'y a que les centres de ressources où les étudiants viennent travailler, mais les enseignants sont dans les centres. Ce n'est pas non plus ni des moniteurs ni des tuteurs, enfin, il y en a aussi pour faire d'autres tâches, mais les enseignants sont là pour encadrer et accompagner les étudiants. Il y a des feuilles de suivi que je mentionnais tout à l'heure parce qu'on garde dans le centre une fiche par étudiant qu'il remplit chaque fois qu'il vient, où il met le temps qu'il a passé, sur quel matériel il a travaillé, ce qu'il en pense, ce qu'il a fait comme activité, avec la date. Et cette feuille sert de dialogue entre l'enseignant et l'étudiant, et l'enseignant peut la noter aussi, ce qui fait qu'on a des statistiques très précises et qu'on sait à chaque moment ce que chaque étudiant a fait de façon tout à fait détaillée. Et puis, alors, là aussi, les activités, on ne peut pas s'étendre dans le cadre de cette intervention, mais les activités, évidemment, sont très variées. Les étudiants peuvent travailler seuls, à deux, à plusieurs. Ils peuvent venir pour se mettre à distance avec d'autres étudiants, comme les tandems, par exemple. Ils ont aussi des sites, je crois que je l'ai mis dans une diapo, des sites internet qui sont organisés par les enseignants, qui font des sélections de sites avec une entrée par support, une entrée par compétence à travailler. Et puis, il y a des ateliers de conversation que nous limitons à 5 ou 6 personnes à laquelle les étudiants s'inscrivent avec un petit logiciel d'inscription qui permet comme ça de gérer les flux très facilement.
Voilà, donc du point de vue du PMC, les flux en question qu'on gère cette année se situent à hauteur de 250 personnes de licence première année. Et comme je le disais tout à l'heure, ce type d'artefact ne permet pas donc de proposer des activités en interaction. Et donc, pour contourner cet obstacle, tout en permettant aux apprenants de bénéficier des apports des interactions, à savoir le repérage, toutes ces choses-là, on peut proposer aux apprenants donc ce qu'on appelle des rétroactions correctives à distance. Donc une rétroaction quand il y a une production d'un énoncé par un apprenant qui comporte un écart par rapport à la norme d'une langue, un locuteur expert peut intervenir de deux façons, soit il ne dit rien, soit il peut agir en retour en demandant par exemple à l'interlocuteur de répéter, ce qu'on appelle donc une rétroaction corrective, en gros faire comprendre qu'il y a un problème. Donc nous, le but du jeu dans ce parcours, c'est d'aider les apprenants à intervenir d'eux-mêmes sur leur problème et donc besoin langagier, en les confrontant à leurs besoins langagiers et en les aidant à trouver des solutions par rapport à ces besoins. Et donc on utilise des rétroactions correctives. Et l'avantage dans ce type de format, c'est qu'on est sur des interactions du coup qui sont asynchrones, ce qui permet aux apprenants d'avoir plus de temps pour réfléchir à ce qui pourrait être fait. Ça permet une meilleure structuration et ajustement des données langagières, et puis éventuellement aussi une progression potentielle dans l'interlangue par le biais du repérage, des mécanismes cognitifs, l'entraînement, et puis éventuellement un passage dans la mémoire à long terme, puis à court terme, puis long terme. Voilà.
Ah oui, alors celle-là, elle ne devait pas être là, en fait.
D'accord.
C'est pas grave. C'était pour illustrer, oui, on devait y revenir. Bon, il faut bien qu'on fasse quelques bêtises, non, mais c'est bon. Donc, c'était pour illustrer l'idée du parcours construit, hein, où on retrouve l'étudiant avec ses caractéristiques propres, des objectifs personnels qui peuvent recouper les objectifs institutionnels, mais pas forcément, mais il y a aussi des objectifs fixés par l'institution, et les ressources avec... Vous voyez, tout le monde est souriant dans les personnes qui sont là, et des ressources multiples et variées. Et les flèches indiquent que l'étudiant construit son parcours, mais vous voyez que ce ne sont surtout pas des parcours rectilignes ou des parcours qui seraient simples, directs. Il y a beaucoup d'errance, erreur et tâtonnement, beaucoup de pointillés. Et ça pose problème quand on parlera des obstacles et des problèmes qu'on rencontre. C'est qu'effectivement, les étudiants, ils aiment bien avoir un truc, qu'est-ce que je dois faire, comment le faire, aller tout droit, etc. Et là... Dans ce dispositif, il y a toute la dimension, il faut que je cherche ce qu'il faut que je fasse, que je réfléchisse, que je tâtonne, que je varie mes dispositifs, mes activités, etc. Donc voilà, c'était une petite diapo rétroactive.
Voilà, rétroactive. Voilà. Donc oui, pour revenir justement en rétroaction sur les besoins des apprenants, une caractéristique qui est assez constante du point de vue des apprenants de niveau à peu près B1, c'est-à-dire des apprenants qui ont un bagage langagier et qui ne parviennent pas toujours à utiliser ce bagage de façon conforme. Voilà, des études ont été menées, notamment par moi, et qui ont mis en place, en évidence, qu'un certain nombre de données circonscrites, ciblées, revient très régulièrement, tant du point de vue des aspects morphosyntaxiques que phonologiques, etc., ce qui permet d'autoriser donc la création de matrices comme celle-ci. Bon, c'est juste, c'est peut-être écrit petit, surtout pour les personnes qui nous regardent à distance, mais l'idée c'est de montrer que voilà, il est possible d'établir des tableaux comme ça, avec une sorte de répertoire de problèmes donnés. Donc là, vous voyez un peu une rubrique concernant des problèmes phonologiques, et de mettre en regard de chacun des problèmes qui a été circonscrit, donc des formules toutes faites, qui comprennent à chaque fois une indication du type de problème, des liens vers des aides en ligne, et également des exercices d'approfondissement ou d'entraînement, et qui peuvent être tels quels, donc utilisés et être copiés-collés sur des fiches de révision qu'on peut remettre aux étudiants, et en procédant de la sorte, donc de travailler vraiment sur un grain très fin, c'est-à-dire l'individualisation, et de remettre à chaque étudiant, pour chaque travail remis, chaque tâche, une fiche individualisée de correction. Et c'est ce que nous faisons. Après, pour permettre à l'étudiant donc, de faire un lien entre le problème qui a été caractérisé et puis l'endroit où il se situe dans sa production, on fonctionne par le biais de codes de révision qu'on a arrêtés et qu'on insère directement donc, dans les productions des étudiants. Donc, par exemple, voilà ce que ça peut donner pour une production écrite. Voilà. Et pour une production orale, on peut utiliser un logiciel comme Audacity qui permet d'insérer des marqueurs et d'indexer à côté de chacun des marqueurs donc des codes de révision. Ce qui fait qu'ici, on donne des indications, on guide l'apprenant dans sa réflexion, sa méta-réflexion sur la langue, mais on ne lui donne pas la réponse. C'est à lui d'associer, de faire la démarche, de se dire, tiens, on m'a signalé un problème à tel endroit, je sais que quelque part il va y avoir un problème, par exemple, de déplacement d'accent tonique, mais c'est à moi de faire le travail d'association, d'essayer de retrouver qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi. Voilà. Donc c'est en ça que ça constitue des rétroactions correctives et à distance. On leur dit, attention, il y a un problème, et c'est à toi donc d'essayer de trouver ce qui ne va pas. Voilà.
Alors, quelques mots sur les modalités d'évaluation. Là, on ne va pas s'étendre non plus. On a, bien sûr, vous connaissez le CLES qui a été plus ou moins imposé dans les universités. À Strasbourg, donc, nous proposons un CLES 2 allemand ou anglais au semestre 5 pour tous les étudiants de licence. Et nous faisons passer parfois en une journée 1600 étudiants au CLES avec les quatre compétences. C'est un peu sportif, mais enfin, on peut y arriver. Et pour les autres semestres, donc il y a ceux qui sont disciplinaires, que j'ai mentionné tout à l'heure, pour les autres semestres, c'est évaluation des compétences en lien avec les disciplines, selon les objectifs visés. Et par exemple, au fur et à mesure des évolutions, on adapte. Et on s'est rendu compte que pour les étudiants, le premier semestre de licence après le lycée, leur proposer un tel dispositif, c'est une révolution culturelle et pédagogique. Et donc, notre première évaluation du semestre 1, c'est on leur demande de faire un état, grâce à un journal d'apprentissage ou un journal de bord, de faire état de la façon dont ils se sont appropriés le dispositif. En langue cible, bien sûr, mais de dire comment ils ont fait, parce qu'il y a une telle rupture qu'on est obligé parfois d'inventer comme ça, on est obligé parce qu'il faut que les évaluations soient bien sûr en cohérence avec le dispositif. Si après les faire travailler de cette façon, on les met dans un amphi pour leur faire un examen commun du type grammaire ou traduction, évidemment, c'est complètement incohérent et ils ne manquent pas de le remarquer.
Voilà, donc du point de vue des modalités d'évaluation sur ce parcours, elle est double. D'une part, en fin d'année, les étudiants doivent passer un devoir commun sur table, comme tous les étudiants, qui vaut pour 70%. Mais dans le cadre de ce parcours en particulier, donc, les étudiants signent un contrat pédagogique qui les engage à réaliser un certain nombre de travaux, à savoir 4 tâches à distance, donc au moins 2 tâches de production écrite et 2 tâches de production orale. Ils doivent également réaliser une simulation d'examen et ils doivent également être mis au moins une fois en situation de communication avec un autre étudiant. Voilà, donc il y a 6 activités en tout à réaliser sur un semestre. Et l'implication de l'étudiant dans ces activités, le sérieux du travail, etc., la prise en compte des remarques qui ont été faites sur chacune des tâches, etc., permet de leur obtenir en tout un total de 30 points de progression. Et les étudiants, bien sûr, sont conviés à passer, s'ils le souhaitent, le CLES, notamment B1, mais pour notre part, il s'agit d'une démarche personnelle qui nécessite une inscription qu'on ne nous prenons pas, nous, en charge. C'est à eux d'aller s'inscrire, etc. Voilà.
Alors, l'évaluation des dispositifs, bien sûr, surtout quand on a 20 ans de pratique, on voit à quel point on évolue et on fait bouger les lignes du dispositif tel qu'il a été conçu, parce que entre les intentions pédagogiques, même si elles sont bien référencées théoriquement, etc., et la pratique, il y a bien sûr toujours des écarts et qui sont intéressants parce qu'ils renvoient justement à des questions de recherche aussi et à des questions de réflexion. Par exemple, dans les ajustements, je citerai comme exemple concret, au début, nous avions des créneaux fixes avec l'enseignant dans un créneau déterminé dans l'emploi du temps et puis des créneaux libres où les étudiants pouvaient venir comme ils voulaient, etc. Et on s'est rendu compte que les créneaux libres étaient finalement assez peu fréquentés et on a décidé de transformer tous les créneaux, c'est-à-dire que les créneaux fixes, même avec un enseignant, un groupe déterminé, étaient ouverts à tous les étudiants tout le temps, pour que si un étudiant a envie de faire quelque chose ou parce qu'il a eu un TD qui a duré 6 heures la veille, qu'il n'a pas pu venir, etc. Donc tout est ouvert tout le temps aux étudiants 40 heures par semaine, ce qui fait qu'ils peuvent vraiment profiter de cette souplesse. Et ça, c'est le genre de choses que l'on aménage. Je vous citais l'exemple tout à l'heure de l'évaluation de la capacité à s'approprier le dispositif, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, on avance en marchant, bien sûr.
Voilà, et cette démarche d'évaluation des dispositifs s'ancre tout à fait dans la démarche de pratique instruite, éventuellement d'autocontrôle, pour voir si le dispositif proposé correspond bien aux besoins des apprenants et permet de valider ses objectifs, d'où le besoin éventuellement d'évaluer son potentiel acquisitionnel en L2, et surtout d'analyser les pratiques apprenantes et enseignantes qui y ont cours au fur et à mesure. En ce qui me concerne du point de vue de mon parcours, à partir du moment où on lance une innovation pédagogique, les analyses en fait arrivent assez rapidement, on se rend assez compte des écueils, assez rapidement des écueils, des problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a lancé un dispositif, il faut attendre la fin de l'année universitaire pour pouvoir le réajuster. On ne peut pas procéder à des ajustements en cours de route, ce qui est dommage, mais d'où des besoins de, des périodes d'évaluation qui peuvent être assez longues. Voilà, moi, je suis dans ma deuxième année d'évaluation et je pense qu'il en faudra encore au moins 2 avant que le dispositif soit vraiment ajusté.
Alors on a aussi, bien sûr, une évaluation qui se fait du côté des enseignants, c'est-à-dire que quand on fait des séminaires réguliers pour discuter justement des questions qui se posent, des obstacles que l'on rencontre, et on invite aussi des collègues. D'ailleurs, maintenant que j'ai travaillé avec Cédric, je vais l'inviter à Strasbourg pour qu'on puisse aussi collaborer sur son dispositif. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire.
Ouvrir des pistes pédagogiques innovantes.
Non, j'avais une autre idée. Ah oui, voilà. L'évaluation des dispositifs est également complexe parce que, enfin, de l'effet des dispositifs sur les étudiants, parce que les étudiants qui arrivent, ils ont un lourd passé déjà d'apprentissage des langues, hein, au collège, au lycée, et il est très difficile de mesurer l'impact qu'ont ces dispositifs sur leur apprentissage dans la mesure où ça s'inscrit dans une histoire assez longue. Et moi, ce que j'ai déposé un projet de recherche, mais qui hélas n'a pas encore trouvé de financement, pour faire un suivi de cohorte sur 3 ans de licence, c'est-à-dire de prendre des échantillons d'étudiants sur les 3 ans pour essayer de voir ce qu'ils apprennent en 3 ans. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, il y a toujours des mauvaises langues et puis les rumeurs, ils perdent leur anglais ou leur allemand, ils ne travaillent pas assez, etc. Votre dispositif, ça ne marche pas. Enfin bon, et comment le prouver? Et moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que dans un suivi, justement, de longitudinal, en disant, voilà, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils développent comme compétences, bien sûr linguistiques et culturelles, mais aussi en autonomie d'apprentissage, en développement personnel, etc. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est vrai, scientifiques.
Et d'où ils partent également, pour voir l'impact du...
Voilà. Ou là, il faudrait faire effectivement des tests à l'arrivée, des tests...
Pré-tests, post-tests, etc. Ok, très bien.
Voilà, alors les bilans... Là.
Voilà, donc on va passer maintenant au bilan de la mise en place de ces deux dispositifs médiatisés. Donc,
Oui, alors, ce qui est positif, parce qu'on a du positif, bien sûr, et du négatif, mais on commence par le positif, parce que c'est quand même toujours plus agréable. La souplesse de capacité d'accueil qui nous est commune, hein, je crois, c'est le fait que l'idée d'avoir des lieux où viennent les étudiants, ou bien des lieux virtuels, hein, à distance, change la vie de l'institution. Hein. Autrement, un cours de langue pour non-spécialistes, comme on disait, c'était trouver un créneau horaire, faire un groupe de niveau, trouver un enseignant, trouver une salle. Quand vous en avez 14 000, 15 000, ça prend des proportions. Parfois, pour faire de la grammaire, oui. Donc là, le fait qu'il y ait un lieu où viennent les étudiants, ça change complètement la façon de travailler. Et dans ce lieu, il y a tout. Il y a les ressources humaines et matérielles. Et qui accueillent des publics divers, c'est-à-dire que dans les centres, on peut avoir des gens qui font des langues différentes, qui sont de disciplines différentes, d'âges différents. On accueille aussi la formation continue des personnels de l'université. C'est large variété de personnes et de supports. Bien sûr, le fait qu'il y ait cette souplesse et cette liberté d'action, de mouvement aussi, favorise le travail en équipe des étudiants. Ils travaillent très souvent à plusieurs, regarder un film à plusieurs, faire des activités à plusieurs, favorise aussi le travail en équipe des enseignants parce qu'il y a aussi plusieurs enseignants en même temps dans les centres qui peuvent être aussi de plusieurs langues ou de plusieurs groupes différents et surtout une relation pédagogique personnalisée parce qu'en travaillant comme ça, les enseignants qui sont dans les centres connaissent très bien les étudiants, vraiment très personnellement et de façon très, très pointue et le dialogue est très spontané, les échanges sont en général assez, assez libres, c'est intéressant pour l'apprentissage. Empiriquement, je dirais que travailler dans les centres développe les compétences d'autonomie d'apprentissage, nous avons essayé de faire des recherches, on a eu une thèse sur la question, mais c'est très difficile là aussi à déterminer, trouver des indicateurs d'autonomie de l'apprentissage, c'est pas tout à fait facile. On a observé d'autres choses et en particulier, on voit aussi que des étudiants qui ont travaillé pendant 3 ans dans les centres de ressources en licence, quand ils arrivent en master, ils sont comme des poissons dans l'eau, ils n'ont plus besoin d'encadrement, ce qui nous a aussi fait moduler notre encadrement, où l'encadrement est beaucoup plus fort au début et beaucoup plus souple et beaucoup plus libre à la fin, où là on fait des choses très pointues, ils présentent un PowerPoint scientifique pour un congrès, des choses comme ça en master, ce qui évidemment demande un autre type de travail.
Voilà, donc du point de vue du parcours en ligne, également, on bénéficie d'une grande souplesse de fonctionnement. Les étudiants peuvent travailler selon les rythmes qu'ils veulent, sur les créneaux qu'ils souhaitent. Nous sommes disponibles à distance, que ce soit par le biais d'une boîte mail qui est propre au parcours ou sur le biais d'un forum qui est quand même assez actif. Il y a pas mal d'échanges. Nous enregistrons également peu d'abandons. Nous accueillons une cohorte de 250 personnes. On a perdu moins de 10 étudiants cette année. Et de plus, on a une liste d'attente d'étudiants qui n'attendent que de pouvoir s'inscrire sur ce parcours. Ce parcours est très bien également pour développer des compétences transversales. Je pense notamment aux compétences informatiques type C2I. Permet également de travailler sur des aspects méthodologiques, également aux apprenants qui ont un niveau de sciences bien supérieur, en tout cas au mien, et donc de réinvestir éventuellement des savoirs qu'ils auraient dans ces disciplines dans le cadre des activités en anglais qu'on leur propose, ce qui favorise un rapprochement interdisciplinaire. Le dispositif, après 2 ans donc, de pratique, est à présent donc, performant pour gérer des grands groupes, parce qu'on a dû remanier le site web qu'il était initialement. On a dû le fermer aussi, mettre en place un accès sécurisé, effectivement, pour éviter que des étudiants touristes, entre guillemets, viennent, nous rendent des travaux sans qu'on sache vraiment qui ils sont et disparaissent dans la nature. À présent, on a un suivi vraiment très étroit avec eux. L'individualisation des parcours de formation à ce stade du dispositif, de l'expérimentation, fonctionne bien. Le problème, c'est que c'est encore très coûteux en termes de temps. Donc là, on travaille à réduire ces temps d'intervention sur les travaux. Donc ça, ce sera l'objet du travail qui nous attend à partir de la rentrée prochaine. Et puis, également, le travail en équipe qui a été mis en place a été vraiment une chouette expérience. Beaucoup d'échanges de pratiques. Travailler à plusieurs, vraiment, ça permet d'avoir plusieurs regards sur des mêmes aspects, donc de nourrir la réflexion, d'anticiper sur des problèmes, aussi de travailler sur des postures. À ce titre, ça a vraiment été une très bonne expérience.
Alors, pour les points qui sont plus difficiles, on va dire, mais qui sont... Enfin, on ne sait pas trop comment... On peut les améliorer. L'obstacle principal, comme je le disais tout à l'heure, c'est entrer dans une nouvelle démarche, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Ces dispositifs qui demandent des nouveaux rôles aux différents acteurs génèrent de l'insécurité, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. Difficulté à gérer sa liberté de la part des étudiants qui vous disent « Ah, la liberté, c'est bien, hein, mais quand même, hein. » C'est difficile, on préfère qu'on nous dise quoi faire, où le faire, quand le faire et quand le rendre. Bon, alors pas tous, quoi, mais là aussi ça se travaille bien sûr et ça se développe. Mais aussi la difficulté à prendre des responsabilités, là aussi hein, le système éducatif ne pousse pas forcément les jeunes à prendre des responsabilités dans l'apprentissage, hein, j'entends. Et pour les enseignants, pareil, difficulté à partager les responsabilités, hein, puisque le besoin de maîtrise hein, chez les enseignants est toujours très fort, de contrôler, vérifier. Donc l'obstacle principal, si vous voulez, et là ça fait partie de ma déception, c'est que nous restons avec ces centres en contradiction avec les enseignements traditionnels. Quand on a créé ça il y a 20 ans, naïvement, je pensais qu'on allait peut-être que l'université allait dans le sens de ces modèles plus anglo-saxons où les étudiants travaillent par eux-mêmes et puis ensuite viennent apporter leurs connaissances et discutent. Là, je dois dire que bon, j'ai une collègue en chimie qui a fait ça en chimie, ça a très très bien marché, mais quand elle est partie, ça s'est arrêté. Donc on reste aussi sur ces expériences qui sont liées à des personnes, à leurs convictions, et puis quand elles partent, voilà. Bon. Voilà, alors autrement, ce qui reste positif, c'est qu'en termes de réflexion sur ces dispositifs, en termes d'innovation et du fonctionnement de l'université, c'est intéressant, mais ça cristallise aussi les résistances. Et quand je disais tout à l'heure que je parlerai hors micro de ce qui bloque maintenant dans la restructuration des langues à Strasbourg, c'est ça aussi, c'est qu'on a un dispositif qui est très en avance, même s'il a 20 ans, par rapport aux autres universités, et qu'on n'arrive pas à trouver une façon pour l'instant, je pense que place aux jeunes, ils feront ça très bien, qu'on trouvera d'autres modalités de travail. Alors, on n'est pas... Oui, on est presque à l'heure, je pense.
Ouais. Ok, donc, à l'UPMC, donc, du point de vue des écueils, des problèmes rencontrés sur le terrain, donc, La première année, ça a été assez catastrophique au niveau de la mise en place du parcours. Je parle de l'interface, du site web. On a rencontré certains problèmes techniques, notamment des normes à devoir respecter pour bénéficier d'un certain type d'hébergement. Donc, on a dû passer par un site statique, ce qui engendre de grosses lourdeurs de mise en place. À présent, le site est dynamique, permet par exemple en un seul clic d'envoyer des mails à 250 étudiants, alors qu'avant, il fallait récupérer manuellement les 250 adresses, ce qui prenait un temps fou. L'ergonomie également du site, la première année, n'était pas au top, je dirais. Voilà, donc ça, c'est des problèmes qui ont été résolus cette année, puisque bon, c'est ce sur quoi on a mis l'accent. Tout ce qui a trait à la réalisation et à la conception de parcours, que ce soit le développement de scénarios pédagogiques ou bien le développement de sites web, ça nécessite beaucoup de temps, surtout pour des équipes de professeurs qui sont pas de langue, je veux dire, qui sont pas toujours formés à la manipulation de ces outils, ou alors en auto-formation, ou en tout cas ça découle à ce stade d'une démarche personnelle, ou éventuellement valider un diplôme dans une deuxième compétence. La première année, on a rencontré des contraintes institutionnelles assez fortes. On a essuyé des arrivées différées des étudiants jusqu'à, je sais pas, le sixième mois de l'année. Ça, c'était incessant. Les étudiants en licence première année sont inscrits dans divers parcours, ce qui fait qu'ils sont rattachés à divers secrétariats. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'être en lien, de trouver des bons interlocuteurs à chaque fois et donc de pouvoir... communiquer avec les étudiants. À présent, avec le site qu'on a mis en place, les étudiants sont directement inscrits sur notre base de données, ce qui fait que tous ces problèmes-là ont pu être évités. Le problème du paiement des heures également pose question. On est enseignant, on est tuteur. Sur quelle base rémunérer du travail fait à distance ? Surtout que le travail actuellement nécessite de nombreuses heures de correction. Donc là le parcours est expérimental, il y a une part de bénévolat dans le travail qu'on fait puisque ça sert aussi à nourrir nos travaux de recherche, mais en l'état c'est pas quelque chose qui pourrait être transférable, je pense, dans un autre contexte avec les outils que nous utilisons actuellement. Et voilà, on est en train de réfléchir sur ces aspects-là actuellement. Et donc à ce titre, je voudrais souligner de nouveau que travail à distance n'est pas nécessairement équivalent à économie, bien loin de là. Voilà, au niveau des aspects pédagogiques, on a rencontré quelques petits problèmes sur le forum. Alors, il y a une forte activité des étudiants, c'est vraiment génial. Mais il y a une telle effervescence que des fois, les étudiants oublient qu'ils s'adressent à une équipe d'enseignants. Et des fois, on a l'impression d'être au bar du coin. Et voilà, on est obligé de rappeler certaines règles de convivialité,
c'est
de courtoisie.
Tous azimuts.
Voilà. Voilà, donc un autre aspect concerne... les besoins de formation pour travailler dans ce type de parcours, parce que effectivement, ça s'improvise pas de mettre en ligne des parcours, que ce soit du point de vue des modalités d'encadrement, du tutorat. Il y a des postures, il y a des choses à faire, des choses à éviter, qu'on découvre des fois de façon surprenante. Également, la mise en place d'un parcours, je soulignais tout à l'heure, donc nécessairement induit des compétences, certaines compétences techniques. Qui nécessite d'être acquise. Et donc on parlait de la formation des enseignants au secteur Lansade en introduction, voilà une entrée qui pourrait être aussi à envisager. Et puis l'implication de l'équipe enseignante à ce stade est très forte et constitue un obstacle, puisque un enseignant qui serait rémunéré pour un travail donné n'entrerait pas dans ses frais avec ce type de parcours à ce stade de l'expérimentation. Voilà.
Alors pour terminer, je voulais vous montrer quelques photos qui retracent 20 ans d'histoire, comme ça ira plus vite que les discours. Et la première, c'est celle-ci, je n'ai pas résisté, j'ai apporté la preuve, là. C'est... le journal Le Monde, donc du 18 février 1993, et j'ai fait la blague à Cédric tout à l'heure, je lui dis, si je te montre sans la date, on pourrait penser que c'est écrit aujourd'hui, n'est-ce pas, hein ? Je crois sans problème. C'est un peu désespérant. Et j'étais à ce congrès à Aix-en-Provence, justement, qui posait déjà ces questions des langues pour les non-spécialistes en langue, pour l'entreprise, pour la mobilité qui n'était pas encore Bologne, mais enfin qui le préfigurait. Et donc, alors, nous, on a commencé... On a commencé comme ça, c'est le cours d'anglais, je ne sais pas, j'entends rien. En 91, hein, c'était comme ça dans l'université de Strasbourg, nous sommes passés à ça, hein, en 2-3 ans, donc avec beaucoup de technologies, hein, beaucoup d'ordinateurs, parce qu'en 91, 92, 93, les étudiants venaient dans les centres pour trouver des ressources, parce qu'il n'y en avait pas au niveau individuel. Hein, on venait travailler sur les ordinateurs, aller sur Internet, qui était déjà compliqué, etc. Et puis maintenant, nous en sommes là. Voyez-vous, ça c'est le raccourci.
Mais la technologie a disparu.
La technologie a disparu parce que la question c'est les étudiants ne viennent plus pour trouver des ordinateurs, ils viennent avec leur ordinateur. Donc nous faisons des lieux, vous voyez, très conviviaux où les gens viennent se brancher, hein, et travaillent. Et la question sur laquelle nous penchons c'est pourquoi viennent-ils, hein. Parce que tout ce qu'ils peuvent faire chez eux, il n'y a aucune raison. Et le pourquoi viennent-ils, c'est ça. Et ça, ça a été transversal, c'est-à-dire la jeune femme que vous voyez là, c'est Peggy Candace, qui est agrégée d'anglais et docteur en sciences d'éducation, c'est elle qui a fait cette thèse sur l'autonomie. C'est ce rôle de l'enseignant, ils viennent pour discuter avec les enseignants, ils viennent pour rencontrer d'autres collègues, pour faire du travail de groupe, du travail de tandem. Et donc, on a complètement, vous voyez, quand on voit ça et ça, 20 ans d'écart. Et je crois que c'est intéressant à examiner aussi, et nous arrivons donc à la diapo de conclusion pour dire que dans nos deux expériences, vous voyez qu'il y a des choses qui sont très proches, des choses qui sont très différentes, nous pensons vraiment que les TIC nous ont ont favorisé l'adaptation et l'évolution constante par l'ouverture qu'elles procurent, le décloisonnement possible, la mobilité des étudiants, mais aussi la mobilité des situations et la mobilité des ressources. On est aussi, enfin, personnellement, je pense qu'on a aussi intérêt maintenant à être en lien avec les usages sociaux des étudiants, hein, qui sont quand même toujours branchés. Et qu'ils apprennent beaucoup de choses. Je co-dirige une thèse en ce moment sur les apprentissages informels par les séries américaines. Hein, c'est-à-dire que là aussi, ils apprennent énormément de choses. Et ce n'est pas la peine de faire comme si ça n'existait pas. Et l'anglais qu'ils parlent est aussi influencé par ce type d'apprentissage. Et en conclusion, nous dirions que les méthodologies que nous avons mises en place, elles ne sont pas centrées sur des contenus d'apprentissage, elles ne sont pas centrées sur les étudiants non plus, mais plutôt centrées sur l'activité des usagers pour apprendre les langues, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des activités qui leur permettent de progresser en langue.
Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. On a fait figurer une... Voilà, une liste
bibliographie.
Voilà, qui tiendra, qui tient sur deux pages et qui sera vraisemblablement mise en ligne, donc ce sera plus facile que de recopier au stylo, je pense.
Voilà, ultérieurement. Et ça, on pensait que pour les... Là, c'est lisible, mais c'est pour...
Voilà, ce sera lisible en ligne. Et puis, vous avez nos coordonnées.
Là, vous avez le site des CRL donc, de Strasbourg et puis nos coordonnées. Voilà, et merci de votre attention.
Merci de votre attention.